soir à la télévision. Vous le voyez, il n'utilise pas le mot, les termes armes nucléaires en tant que telles, très connotés historiquement évidemment, on va y revenir. Mais voilà, parmi les forces de dissuasion, à la panoplie complète et traditionnelle de missiles, bombardiers et navires, il faut rajouter cette puissance de feu nucléaire.
Et en quelle quantité, Martin ?
Eh bien, si on se base sur les toutes dernières estimations de la FAS, la Fédération des scientifiques américains, une ONG créée en 1945 après Hiroshima et Nagasaki et qui se veut non partisane, la Russie posséderait 5977 ogives nucléaires. Estimation, car évidemment, aucun pays qui possède l'arme nucléaire ne communique évidemment sur le nombre exact.
Sans
ça
doute.
Fait partie de la stratégie de la dissuasion. Attention, il faut apporter une nuance tout de même à ce chiffre de 5977, plusieurs d'ailleurs. Préparez-vous à un petit exercice de calcul mental et sortez
ça, on
votre
adore, Sophie Léonard,
calculette. D'abord, ce chiffre comprend celles qui sont directement opérationnelles sur Terre avec des lance-missiles depuis la mer, sur des navires ou des sous-marins, ou évidemment depuis les airs à l'aide de bombardiers, il y en aurait 1588. Mais voilà, il y a aussi des ogives de réserve, le stock, si vous voulez. La Russie en posséderait encore 2889. Celles-là, eh bien, il faut un peu de temps pour les rendre opérationnelles, notamment le temps de les amener sur les sites de lancement. Tout simplement, cela ne vous aura pas échappé. 1588 plus 2889, ça ne fait pas 5977. Les 1500 restantes représentent en fait une sorte d'héritage de la guerre froide. Elles sont intactes, mais dans leur jus, pour ainsi dire, retirées du stock opérationnel pour être en principe démantelées ou en voie de démantèlement. Mais elles ne sont pas donc utilisables en l'état.
Et est-ce qu'on peut faire, Martin, une distinction à l'intérieur même de cet arsenal nucléaire ?
On pourrait, je pourrais, et encore je ne suis pas du tout ingénieur, je tiens quand même à le préciser, je pourrais vous expliquer les subtilités entre ces ogives, leur portée, leurs composants, la quantité d'uranium hautement enrichi ou de plutonium. Mais comme l'expliquait Christophe Wazinski, chercheur au Centre de recherche et études en politique internationale de l'ULB, cette distinction, selon lui, elle est moins essentielle. En fait, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que toutes ces armes sont des armes extrêmement puissantes, incomparablement plus puissantes à tout ce qui existe en termes d'armement conventionnel, et que peu importe qu'on évoque une arme portée par un missile, un avion ou un sous-marin, ce sont des armes de destruction massive dont certaines peuvent rayer de la carte des pays entiers.
Et la Russie n'est pas le seul pays détenteur de l'arme nucléaire. Et
évidemment, l'autre grande puissance nucléaire, ce sont bien sûr les États-Unis, avec près de 5400 ogives. Dans une moindre mesure, le Royaume-Uni, la France, Israël, le Pakistan, l'Inde, la Corée du Nord et la Chine se sont aussi depuis dotés de l'arme nucléaire. Mais les USA et la Russie représentent plus de 90% du stock mondial. Alors en 2019, l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm estimait l'arsenal mondial total à 13 400 ogives. On serait, selon la Fédération des scientifiques américains que je citais tout à l'heure, aux alentours de 12 700 en ce début 2022. 12 700, c'est bien moins que les 70 000 enregistrés dans les années 80. On pourrait se dire qu'on a progressé sur ce front-là.
Ouais, c'est pas aller un petit peu vite en besogne, ça, Martin.
Eh bien, si, parce que ces chiffres, en fait, ils sont tout simplement incomparables. Les technologies ont évolué. Et comparer les chiffres d'aujourd'hui avec ceux d'hier, c'est un peu comme additionner des pommes et des poires. La puissance de frappe totale est aujourd'hui beaucoup plus forte. Et puis, le rythme de réduction a ralenti par rapport aux années 90. C'est-à-dire que si de nombreuses armes sont démantelées, les stocks utilisables, eux, ils augmentent.
Cela veut dire que les traités mondiaux contre la prolifération nucléaire ont eu peu d'impact, finalement.
Oui, alors ici, il faut faire des distinctions vraiment essentielles. Comme le rappelle le spécialiste de l'ULB, Christophe Wazinski, il y a plusieurs grands textes internationaux, mais de nature différente. Celui d'abord sur la non-prolifération nucléaire, c'était en 1968. Peu de nous autour de la table étaient nés à cette date-là. Il visait à empêcher l'acquisition d'armes nucléaires par des États qui, à ce moment-là, n'en disposaient pas encore. Donc ça ne changeait rien pour ceux qui en avaient. USA, URSS, Chine, France et Royaume-Uni, ils avaient le droit de les conserver. Depuis, d'autres pays, je l'ai dit, s'en sont dotés. Ensuite, d'autres accords, souvent bilatéraux, ont été signés entre les USA et l'URSS, notamment ceux qui visaient à éviter la course aux armements nucléaires, donc pas à les supprimer, mais à limiter, si vous voulez, la progression des arsenaux, à fixer des plafonds, en quelque sorte. Et puis, dernier type de traité, ceux qui visaient la réduction et le désarmement en tant que tel. Ce sont des vestiges de la fin de la guerre froide, mais qui ont encore des implications aujourd'hui. Par exemple, le traité New START 3, il a été prolongé l'année dernière, en février 2021. C'est le fruit d'un accord entre Russie et États-Unis. C'était d'ailleurs souligné comme une avancée diplomatique majeure à l'époque, depuis de nombreuses années. C'était un accord qui limite les arsenaux des deux puissances à 1500 ogives déployées chacune. C'est près de 30% de moins par rapport à la limite fixée en 2002. Bon, ce chiffre reste évidemment suffisant pour détruire la Terre plusieurs fois malgré tout, je vous rassure. Mais c'est important car des traités comme cela sont suivis de vérifications sur le terrain, notamment avec des inspecteurs qui descendent sur le terrain.
Il y a en revanche des traités qui ont été affaiblis, hein, voire détricotés, et qui peuvent expliquer sans doute la situation d'aujourd'hui, Martin.
Oui, c'est toujours Christophe Wazinski qui me l'expliquait tout à l'heure. Vladimir Poutine a certes un projet politique avec l'invasion de l'Ukraine et qui lui appartient, mais il faut bien se dire que cela se fait dans un contexte de reprise de rivalité de part et d'autre. Et il faut parfois remonter à loin. Exemple, le président George W. Bush, au début des années 2000, a décidé de ne plus appliquer le traité dit ABM, un traité qui interdisait la possession de défense antimissile. Les Russes tenaient beaucoup à cet accord-là parce qu'ils considéraient que pour que la dissuasion fonctionne, eh bien, il fallait que la Russie et les États-Unis soient vulnérables, en quelque sorte, pour se bloquer mutuellement. Or, si les États-Unis commençaient à développer des systèmes antimissiles, ça signifiait qu'ils étaient moins vulnérables, et peut-être s'ils étaient moins vulnérables, qu'ils seraient tentés de prendre davantage de risques. C'est évidemment un écho dissuasif de la guerre froide. Alors l'abandon de ce traité a été vivement critiqué par la Russie à l'époque, d'autant qu'une partie des installations et des boucliers antimissiles sont installés en Roumanie et en Pologne, et ça déplaît énormément à la Russie. Bref, pour plusieurs observateurs, cette déclaration du président Poutine sur la force de dissuasion nucléaire rentre dans ce qui était la base de la guerre froide, l'équilibre de la terreur.
Oui, effectivement, et ça n'a pas de quoi nous rassurer tout cela. Merci beaucoup, Martin Bildores, pour toutes ces explications. Et je vous rappelle que si vous avez, vous aussi, une question à nous adresser, à adresser à Martin Bildores cette semaine, ça se passe sur une seule adresse, déclic@rtbf.be. En épingle.